Qui n'a jamais été heureux et soulagé en trouvant de l'ombre sous un arbre? Alors c'est vrai qu'en entendant ce texte de Jonas, je me suis dit, bon, on espère longue vie à notre figuier pour qu'il puisse nous donner de l'ombre. En tout cas, la plante est donnée, l'ombre est donnée, une plante qui aurait pu ne pas exister. Est-ce que vous avez remarqué dans le texte que l'ombre est donnée deux fois pour Jonas? Il faudrait le relire tranquillement. En fait, il se construit une hutte et il est à l'ombre sous sa hutte. Mais il était un peu enfermé. Et s'il veut sortir, ben, il est quand même au soleil. Et du coup, là, Dieu lui donne une deuxième ombre, toute gratuite, l'ombre de la plante. Une plante, on ne sait pas vraiment tellement ce que c'est. On appelle ça un ricin. En grec, c'est kikaion. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, cette dernière provoque beaucoup d'émotions à Jonas. Beaucoup de joie et puis ensuite beaucoup de désespoir. Alors, il faut se dire que la pédagogie de Dieu est à l'œuvre. Il essaye d'amener Jonas à comprendre son amour pour l'humanité. Un amour qui va jusqu'au pardon, autant dire un amour impossible. Et de la même manière, Jésus utilise les images d'un arbre qui ne donne pas de fruits pour parler du salut de l'humanité et des êtres humains. Il faut comprendre que Dieu ne place en aucun cas la nature au-dessus de l'être humain, mais il l'utilise comme image. C'est pour ça que lorsque l'on parle de création, il ne faut pas la confondre avec la nature. Et ça, c'est un peu une subtilité que j'aimerais préciser aujourd'hui, parce que souvent on se dit qu'il ne faut pas être en effet radical pour préserver la nature. Ben non, il ne faut pas l'être, puisque la création de Dieu, c'est bien sûr la nature, mais aussi l'être humain. Et j'aime beaucoup le livre de Didier Fievé. Le livre qui s'appelle « Bible et écologie », il fait cette affirmation « La création relève de la culture, pas de la nature ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'être humain fait partie de la création, l'être humain est un être de culture. La culture, ce n'est pas forcément uniquement aller au musée et aller voir l'Arc de Triomphe emballé par Christo. Ce n'est pas que ça. La culture, elle commence par notre propre langue. L'être humain est un être de parole. Et donc, on a chacun des langues différentes, des manières différentes de s'exprimer, de communiquer. Et du coup, eh bien, la culture, c'est bien sûr la langue, ça peut être la manière de s'habiller, et puis après, bien sûr, ça peut être des formes d'art. Mais l'être humain n'est pas un animal de plus sur la planète. Il n'est pas réductible à son être biologique. Il est créé à l'image de Dieu, c'est un être de parole. Dieu crée par sa parole. Et la parole permet à l'être humain d'être en relation avec toute la richesse que cela implique. L'être humain est ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. Il le dit, est-ce que je n'aurais pas pitié de 120 000 êtres humains qui ne connaissent ni leur droite de leur gauche ou bien qui ne savent pas distinguer le bien et le mal? Pourtant, Ninive est une ville qui s'est avérée extrêmement cruelle autrefois, il y a très 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 longtemps. Il y a des textes qui le relatent, qui le rappellent. Et du coup, la conversion du roi et des habitants ne plaît pas à Jonas, mais elle résulte de leur liberté. On peut prendre un autre exemple de ville, au contraire, qui ne s'est pas convertie, c'est Sodome. Abraham a intercédé pour Sodome et Sodome ne s'est pas converti. Ninive s'est converti. Et en fait, il faut bien se dire une chose, la nature n'est pas libre, elle est déterminée. Un pommier donnera toujours un pommier. Un pommier donnera toujours une pomme ou des pommes. Un grain de blé donnera des grains de blé, etc. Contrairement à l'être humain qui, lui, est libre. Il est appelé, en tout cas, à être libre, malgré les déterminismes de sa naissance. Parce que quand on naît, on sait qu'il y a des déterminismes qui rendent les êtres humains pas toujours égaux entre eux, mais du coup, l'être humain est appelé à bouger, à changer, à apprendre, à sortir, à découvrir l'autre, à sortir de ses esclavages et à réfléchir à ses choix et à ce qui est essentiel pour lui. Libre, mais appelé à la responsabilité et à la créativité. Alors je reviens à la gratuité de la plante donnée par Dieu. Elle renvoie à la gratuité du cadre de vie des humains, au don que Dieu nous fait de notre planète habitable. Et peut-être que chacun d'entre nous, on a eu une relation très très différente à ce cadre de vie. Comment est-ce que nous avons vécu cette relation depuis que nous sommes enfants? Je me souviens en tout cas de discussions sans fin avec une cousine parisienne. Moi, je grandissais dans une maison avec un jardin et elle dans un appartement à Paris. Et du coup, nous avons chacune développé une relation très différente à notre environnement. La proximité des arbres et d'une nature paisible était pour moi un gage d'équilibre. Les scouts aussi, grâce aux scouts, je pouvais aller faire des cabanes dans la forêt et découvrir les multiples petites bêtes qu'il y avait à la surface des étangs. Et puis elle, eh bien, c'était pas très très intéressant. Par contre, elle avait tout un choix de culture et d'art à Paris qui l'intéressait beaucoup. En tout cas, quelle que soit notre histoire, quelle que soit la relation que nous avons avec notre cadre de vie, eh bien, nous sommes responsables d'être conscients que nos choix de vie peuvent impacter ou pas la Terre et les autres. Alors évidemment, notre connaissance maintenant se développe dans de multiples domaines. Nous pouvons nous émerveiller devant la beauté, l'ingéniosité de la nature, et nous savons maintenant que notre Terre a des ressources limitées. Une des questions de Didier Fievet, c'est comment conserver cette Terre en état d'accueillir l'humanité? Et j'ajoute, quel est notre rôle de croyant? Dans la Genèse s'est efforcée de montrer à quel point il ne fallait pas diviniser la nature, parce que c'était évidemment le propre de toutes les religions environnantes de diviniser la nature. Et comme je l'ai dit, il n'est pas question d'être totalitaire dans une pensée unique. L'être humain est appelé à vivre sur la Terre. Et pour que chaque être humain puisse accéder à ses richesses et aux évolutions du monde, eh bien, nous sommes appelés à faire des choix responsables, aussi bien individuellement qu'en Église. Quand j'étais petite, la première fois que j'ai entendu parler du recyclage, c'était en Suisse, chez une grande tante, qui recyclait l'aluminium et le verre, déjà à cette époque. Et c'était le tout début, et ça m'a fait comprendre, à ce moment-là, eh bien que oui, des petites choses peuvent être aussi un engagement et que ça nous appartient. La responsabilité, c'est prendre conscience des liens entre les choses et les humains. Un jour, j'ai lu un livre sur la bénédiction. L'auteur a tiré notre attention sur la force d'une parole bonne, dire du bien. Et l'auteur nous exhortait à bénir les personnes autour de nous. Et dans un passage, il nous demandait d'imaginer notre assiette avec son contenu de nourriture. Et de penser à tous les lieux par où sont passés les aliments, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à ce que ma nourriture soit dans mon assiette. Le riz a pu être ramassé dans une rizière, peut-être loin d'ici. Le poulet vient peut-être du Brésil. Je crois qu'il y a 80% de poulets qui ne sont pas de France. Les fruits ont peut-être été cueillis à la main, mécaniquement. Ils ont été transportés, stockés et vendus. Et cet auteur proposait de bénir toutes les personnes qui faisaient partie de cette chaîne. Alors, c'est une proposition, je n'ai pas forcément réussi à faire ça tout le temps, mais en tout cas, ça m'a ouvert un esprit plus large. Ça m'a permis de regarder autrement ma nourriture quand je me mets à table. Cette proposition a élargi ma vision des choses et a augmenté ma reconnaissance. Hier, nous avons donc fait notre chantier. Notre chantier a été joyeux. Nous n'avons rien créé, mais nous avons planté. Quel plaisir de voir ces arbustes, ces rosiers, ce figuier qui nous sont confiés. D'autres ont démarré leur croissance, nous les avons achetés, mais en fait, nous ne les possédons pas. Nous espérons évidemment qu'elles se plairont malgré l'environnement urbain, mais nous empruntons de la terre et des plantes pour dire au cœur de notre ville qu'on peut donner des signes d'espérance. L'espérance que la vie peut être belle et qu'elle peut pousser pour tous, sans distinction. Alors bien sûr, c'est à nous d'en prendre soin, de les tailler de la bonne manière. Et heureusement que Daniel Alain était là hier avec Agnès pour tailler, alors que votre pasteur avait plutôt envie de garder tout. Mais non, il faut tailler, il faut les arroser. Et cela nous incombe. Les plantes vont pousser sans nous, on pourra aller les visiter régulièrement, voir comment elles se plaisent. La vie porte toujours un risque. Alors ces plantations ne vont pas changer la face du monde, mais elles peuvent faire du bien à ceux qui prendront le temps de les regarder. Pour moi, elles sont à l'image de cette espérance que nous nous devons de relayer en tant qu'Église chrétienne. La gratuité de la plante qui continue à produire des feuilles, des fleurs et des fruits fait écho à la gratuité du don de Dieu pour nous et qui est manifestée dans la venue de Jésus. La gratuité de son amour pour nous nous met en route pour aimer à notre tour, et que ce soit aimer dans nos relations directes ou que ce soit aimer à travers le souci de notre terre commune, c'est dans le quotidien que nos gestes le reflètent, et cela relève de la même logique. Nous faisons au mieux avec ce que nous savons et ce que nous pouvons. De même que nous continuons à aimer malgré les guerres qui perdurent, de même nous prenons soin de ce qui nous est confié. Toutes les matières qui passent dans nos mains viennent de notre planète. Dieu a créé l'humain intelligent et créatif. Il attend qu'on agisse avec intelligence. Dans un synode, un des synodes précédant la création de notre Église unie, donc notre Église unie, elle a été créée en 2013, et le synode de 2012, dans ce synode, les deux présidents, luthériens et réformés, avaient co-signé un texte sur la manière de proposer l'Évangile. Un mot avait attiré mon attention, il y avait bien sûr le mot confiance, le mot témoin, mais un mot avait attiré mon attention, c'était la sobriété. Je me suis dit, eh bien, c'est un sacré engagement dans une création d'Église de parler de sobriété. Et je vous lis un petit passage de cette déclaration. Si la sobriété est à l'ordre du jour, au regard des risques que nos excès font peser sur l'avenir de la planète et de tout ce qui l'habite, tant mieux. Cette sobriété, c'est le contraire du souci de soi démesuré. Cette sobriété, c'est au fond une manière simple, profonde et quotidienne de rendre gloire à Dieu seul, et c'est pourquoi nous y sommes attachés. Nous sommes des êtres de parole et de relation. Aimé par Dieu au point d'envoyer son Fils sur la terre pour toute l'humanité. Dans l'histoire de l'arbre, Jésus nous montre que Dieu est patient. Il n'attend pas que nous soyons parfaits, mais il nous demande de nous mettre à l'école du Christ. Par Jésus, Dieu nous donne une espérance au-delà de toutes les catastrophes, au-delà de tous les pessimismes, au-delà de la mort. À nous de relayer cette espérance.